Alors, bon matin à vous tous et merci aussi en particulier à l'équipe de Louange. Ces beaux chants qui nous font toujours du bien, chanter la gloire et chanter aussi à l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, ce matin, nous allons continuer notre étude du livre de Néhémie. Et notre frère Adama nous a mis la table la semaine dernière. Alors, je ferai par un retour exhaustif de ce qu'il a dit, simplement une synthèse. Le livre de Néhémie, on peut justement sortir l'idée principale, rebâtissant l'œuvre de Dieu et le peuple de Dieu. C'est ce qui transpire à travers ce livre-là. Et aussi, un autre grand thème, c'est que le leader suscité par Dieu mobilise le peuple de Dieu afin d'accomplir l'œuvre de Dieu. Et cela malgré l'opposition venant de la part des ennemis de Dieu. Et ça, c'est certain. Le moment que nous nous impliquons dans l'œuvre de Dieu, il va y avoir de l'opposition. Mais la bonne nouvelle, c'est que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et le Seigneur nous a promis aussi que nous, avec Dieu, nous ferons des exploits. Alors, il ne faut pas se décourager. C'est notre lot, mais quand même. Et nous pouvons aussi, vous savez que souvent les équipes de football ou de basketball, ils ont un cri de ralliement. Et notre cri aussi ce matin pourrait être à travers l'étude de ce livre, « Levons-nous et bâtissons ». Pourquoi? Parce que le Dieu des cieux nous donnera le succès. Le succès est garanti. Et ça, ça vient du livre de Néhémie 2, 18, 20. Alors ce matin, je veux regarder le chapitre 1 avec vous, que j'ai intitulé « Un réveil qui a commencé par la prière ». Et ça, c'est le livre de Néhémie, chapitre 1, versets 1 à 11. Alors, je vous invite à prendre vos Bibles, et ce sera notre texte pour ce matin. Et le thème qui va ressortir de ce texte, ça va être le chagrin ressenti par les leaders spirituels à cause de l'état honteux des choses dans le royaume de Dieu, les motivent par la prière de confession à implorer Dieu de raviver son œuvre et son peuple. Alors, vous savez, en guise d'introduction, suite à l'événement qui a bouleversé la vie des citoyens de lac mégantique, je suis certain que nous avons tous entendu parler de cette tragédie, peut évoquer chez l'être humain des sentiments. Et on a vu toutes sortes de sentiments qui étaient manifestés, des sentiments de peine, de sympathie, des gestes de bienfaisance venant un peu de partout. Beaucoup de gens se sont impliqués, qui se sont sentis justement touchés par cette tragédie, et ils ont voulu justement apporter leur aide, leur sympathie, de quelque manière que ce soit. Même la semaine dernière, les Canadiens de Montréal ont déplacé leur séance d'entraînement qui a lieu normalement au Centre Bell. Ils sont allés à l'aréna de lac mégantique et cela simplement c'était pour encourager bien sûr les amateurs d'hockey de cette ville. Et nous devrions justement apprécier, applaudir de tels gestes qui nous démontrent que oui, effectivement, il y a des gens qui se soucient de ceux et celles qui sont dans des situations difficiles. Mais en temps normal, posons-nous la question, est-ce que nous nous soucions des problèmes autour de nous? Et surtout dans notre contexte, dans l'Église. En général, est-ce que nous nous soucions de ce qui se passe, des problèmes qui peuvent surgir dans notre Église locale? Et je vous cite ici un nommé Paul Apple. Il vient de Solid Rock. En français, c'est le Rocher Solide, ça c'est le nom de son église, Solid Rock Community Church en Baltimore, Maryland. Et lui a répertorié plusieurs problématiques auxquelles l'église du 21e siècle doit faire face. Et je vous en cite quelques-uns. Des problèmes pas aussi spectaculaires, justement, de ce qui est arrivé au lac mégantique, mais qui sont là, néanmoins, et qui contribuent à affaiblir l'impact que l'Église devrait avoir sur la culture. Et voici ce qu'il a retrouvé. Le but recherché aujourd'hui, dans le 21e siècle, par plusieurs croyants, ne semble plus être la sanctification. En anglais, on dit « God didn't save you to be happy, he saved you to be holy ». Le Seigneur ne vous a pas vous sauvé pour que vous ayez une vie complètement remplie de bonheur, mais que vous soyez un croyant qui est sanctifié, qui est saint. Nous vivons parmi une génération qui pense que c'est correct de regarder dans l'autre direction quand le péché est évident. On a tendance d'éviter la confrontation, il parle ici d'un contexte de péché, quand il y a le péché qui est là, on a tendance d'éviter justement d'aller confronter les gens avec leur péché. Plusieurs églises de nos jours n'exercent plus la discipline. La distinction entre un croyant et un non-croyant n'existe presque plus. Nous avons la tendance de nous mesurer les uns par rapport aux autres, au lieu de nous mesurer par rapport à la stature parfaite de Christ. Éphésiens 4:13. Deuxièmement, plusieurs églises recourent aux stratégies de marketing pour combler les besoins ressentis des non-croyants et aussi pour remplir leur église. Et troisièmement, ce qu'il a trouvé aussi, c'était que la Bible aujourd'hui, en 2013, perd du terrain quand il s'agit de l'accepter comme étant la parole de Dieu, ayant toute autorité dans l'Église et sur le croyant. Et suite à cette étude, cette recherche, il a posé deux questions extrêmement importantes. Premièrement, jusqu'à quel point nous nous soucions de l'état des choses dans le royaume de Dieu? Un peu? Beaucoup? Pas du tout? Et est-ce que notre souci nous pousse, nous motive à implorer Dieu de raviver son œuvre et son peuple et nous motive à nous impliquer dans un processus de reconstruction? Alors, nous allons lire ce matin Néhémie chapitre 1, qui va nous donner justement les réponses à ces questions et voir comment Dieu, à travers cet homme Néhémie, commence la reconstruction de son œuvre à Jérusalem. Alors, Néhémie chapitre 1er, on va lire à partir du verset 1er. Parole de Néhémie, fils de Hakalia. Au mois de Kézleu, la 20e année, comme j'étais à Suse dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, « Ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province. Au comble du malheur et de l'opprobre, les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. » Lorsque j'ai entendu ces choses, je m'assis, je pleurai et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnai et je priai devant le Dieu des cieux et je dis, Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment. Jour et nuit pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Nous t'avons offensé. Nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors, quand vous serez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échanson du roi. Et ce matin, j'aimerais regarder avec vous justement quatre éléments qui découlent de ce chapitre. Tout d'abord, la reconstruction de l'œuvre de Dieu à Jérusalem découle d'un rapport honteux. Et dans le texte que nous venons de lire, nous lisons ceci. « Anani, l'un de mes frères et quelques hommes arrivèrent de Juda, je les questionnais au sujet de Jérusalem et au sujet aussi des Juifs réchappés. » Et là, on va mettre le texte dans le contexte. Le temps, c'est le mois de Kézleu, c'est fin novembre, début décembre. L'endroit, c'est le royaume de Perse. Néhémie se trouve à Suse, dans la capitale, c'est justement au palais royal. C'est un homme qui a la confiance du roi, c'est un échanson, ça veut dire que c'est lui qui goûtait au vin avant de le donner au roi, pour empêcher que le roi soit empoisonné par quelques malfaiteurs. Alors cet homme-là, il a une position d'autorité, de prestige dans le royaume de Perse. Et malgré cela, malgré qu'il occupe cette position, son cœur se trouve avec l'œuvre de Dieu et le peuple de Dieu à Jérusalem. C'est un homme qui se soucie assez de ce qui se passe dans le royaume de Dieu et avec le peuple de Dieu pour s'informer. Et là, il y a un texte dans Jérémie 15, 5, pas besoin d'y tourner, mais le texte dit ceci. « Qui aura pitié de toi, Jérusalem? Qui te plaindra? Qui ira t'informer de ton état? » Et c'est ce que Néhémie fait. Il y a quand l'œuvre de Dieu, il y a quand le peuple de Dieu, alors il se soucie assez pour savoir comment est-ce que ça se passe avec son peuple et aussi avec l'œuvre de Dieu. Et quelle réponse a-t-il obtenue? Ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Quel rapport désolant! Quel rapport honteux pour l'œuvre de Dieu et pour le peuple de Dieu! J'aimerais que vous remarquiez ici deux choses. Le peuple de Dieu, au comble du malheur, et de l'opprobre, un peuple qui ne prospérait pas émotionnellement ni spirituellement. Ils étaient là, mais comme des survivants dans leur propre pays. Et la ville de Jérusalem, la ville de Dieu, Dieu avait choisi pour y faire résider son nom. Ses murailles sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Cette ville avait connu la défaite. C'est une ville maintenant sans protection, exposée aux attaques de l'ennemi, une ville sans sécurité. Ça faisait 160 ans que cette ville était dans cet état lamentable. Et laissez-moi vous dire que ça n'a jamais été sur le programme de Dieu pour son peuple, ni pour la ville de Jérusalem. Dieu avait dit dans Deutéronome 9, 1, 3, je vous cite le texte, « Écoute Israël ». Ça, c'est quand les enfants d'Israël ont traversé le désert, ils s'en allaient dans le pays de, maintenant, de Canaan. Dieu leur avait dit ceci, « Tu vas aujourd'hui passer le Jourdain pour te rendre maître des nations plus grandes et plus puissantes que toi, de villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Sache aujourd'hui que l'Éternel, ton Dieu, marchera devant toi comme un feu dévorant. » Dieu avait dit à son peuple, vous allez rentrer dans ce pays-là et vous allez être, pas des survivants, vous allez être des vainqueurs et même plus que vainqueurs. Et quel contraste avec ce qui se passait suite à ce rapport. Et à propos de Jérusalem, on avait ce matin cité un texte, Psaume 122 dit ceci, en parlant de Jérusalem, nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Dans ce contexte ici, il n'y a même pas de porte, plus de porte. Jérusalem, tu es bâti comme une ville dont les parties sont liées ensemble. Quel contraste. Ici, la ville est brisée, les murailles sont brisées en ruine. Et comme j'ai déjà dit, quel rapport désolant, quelle scène désolante, quelle honte. C'était une honte pour le peuple juif, c'était une honte pour l'œuvre de Dieu, le peuple de Dieu. Et puis il y avait ici un grand besoin pour Dieu d'intervenir, de redresser la situation. Tout d'abord pour l'honneur de son nom et aussi pour la bénédiction de son peuple. Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Dans le personnage de Néhémie, il avait son homme au bon endroit, au bon moment, avec la bonne attitude. Néhémie, qui se souciait assez pour s'informer, mais Néhémie, maintenant, quand il a entendu ce rapport, il voit le besoin. Et c'est là que la vision commence. Il a entendu, et dans son esprit, il voit justement le besoin qui est là, parce qu'il a pris le temps de s'informer. Deuxièmement, la reconstruction de l'œuvre de Dieu à Jérusalem découle non seulement d'un rapport honteux pour le peuple de Dieu, mais aussi elle découle d'une réaction extrême. Quand il a entendu cette mauvaise nouvelle, il a dit ceci: lorsque j'ai entendu ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation extrême. Avez-vous remarqué que le texte dit quand j'ai entendu ces choses? Ça, c'est un homme là, qui était attentif. Ça n'a pas rentré par une oreille et sorti comme si, par l'autre. Ce qu'il a entendu l'avait tellement affecté, ça avait frappé comme en plein figure, tellement bouleversé, qu'il a dit, écoute une minute, là, il faut que je m'assoie. Et pourquoi est-ce qu'une réaction si extrême? C'est parce que cet homme, il se souciait assez de la condition de l'œuvre de Dieu et du peuple de Dieu pour s'informer. Il avait fait. Mais il se souciait assez aussi pour en être touché. Jusqu'au point de pleurer. Ce qu'il a entendu ne l'a pas laissé indifférent. Il a entendu la mauvaise nouvelle. Il a été touché par ce qu'il a entendu. Et il démontre justement ce qu'il ressent par des larmes. Est-ce qu'on peut dire que Néhémie, c'est une falouette, comme on dit? Est-ce qu'elle pleurait? C'est la faiblesse. Pas du tout. Des hommes, des grands hommes de Dieu ont pleuré. Jérémie a pleuré sur justement la situation des peuples d'Israël. Il a dit ceci: « Aussi ma tête était remplie d'eau et mes yeux étaient une source de larmes. Je pleurerai jour et nuit. » Le grand apôtre Paul y a pleuré, il a dit qu'il servait le Seigneur avec larmes. Et Jésus-Christ aussi, notre modèle par excellence, a pleuré. Quand il a vu la ville de Jérusalem, et quand il s'est rendu compte de l'endurcissement du cœur du peuple, il a pleuré sur cette ville, il a dit: « Jérusalem, combien de fois aurais-je voulu vous rassembler comme une poule rassemble ses poussins sur ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. » Ça lui a brisé le cœur. Et Christ a pleuré. Et pourquoi donc Néhémie a-t-il pleuré? Pourquoi cette réaction extrême? Pourquoi cette réaction émotionnelle? Qu'est-ce que ce texte nous enseigne à propos de Néhémie? Cet homme qui se souciait assez pour s'informer, qui se souciait assez pour pleurer, il n'a pas seulement vu le besoin, mais aussi il a ressenti le besoin. Il a ressenti le besoin. Il y a un homme, Alexander McLaren, qui a dit ceci: « Les hommes et les femmes que Dieu suscite pour accomplir une grande œuvre pour lui et pour leurs semblables doivent ressentir tout d'abord le grand poids qui pèse sur eux. Personne ne fera une œuvre de reconstruction qui est digne et valable si cette personne n'a pas tout d'abord pleuré sur les ruines. » Et dans le cas de Néhémie, c'est exactement qu'est-ce qui se passe. Dieu préparait son serviteur pour l'œuvre qu'il allait accomplir. Mais l'histoire ne termine pas là. Malgré le fait qu'ils se sont écrasés par le poids de la souffrance de son peuple, Néhémie ne dit pas simplement « Oh, c'est touchant. Oh, ça me fait tellement de la peine. Oh, j'ai broyé comme une madeleine. Oh, oh, ça m'a fait du bien d'avoir pleuré. Oh, je me sens déjà mieux. » Non, dans ce texte, il y a plus qu'une réaction émotionnelle. Il y a plus que les sentiments. Néhémie est convaincu que les choses vont mal. Il a vu le besoin. Il a ressenti le besoin. Mais il est convaincu qu'il y a un remède, que les choses ne peuvent pas rester telles quelles. Les murailles de la ville de Jérusalem en ruine, le peuple de Dieu au comble du malheur et de l'opprobre, le nom et la réputation de Dieu qui traîne dans la boue. Non, 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 il dit. Il refuse d'accepter cela. Pourquoi? Parce qu'il y a trop à craindre l'œuvre et la gloire de Dieu. Et il sait que si les murailles sont en ruine, si le peuple sont au comble du malheur et de l'opprobre, la réputation de Dieu a été ternie, il sait qu'il y a une raison pour cela. C'est le péché. Voilà pourquoi le peuple de Dieu était rendu dans cet état à cause du péché. Et voilà pourquoi la reconstruction de l'œuvre de Dieu à Jérusalem découle d'un rapport honteux, oui, d'une réaction extrême, oui, mais aussi d'une repentance sincère. D'une repentance sincère. Et que dit le texte? Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Et au verset 6, c'est en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Et j'aimerais juste vous donner rapidement quelques grandes lignes à propos du jeûne. On se prive de la nourriture, principalement, ça peut être aussi à d'autres choses. Alors, que nous vivions pour manger ou que nous mangions pour vivre, qu'importe, on se prive de la nourriture pour un certain temps, pour focaliser sur Dieu. Et dans le contexte biblique, les hommes et les femmes ont jeûné quand ils avaient besoin de persévérance exceptionnelle pour sortir des situations difficiles, voire désespérées, pour faire face aux puissances des ténèbres et pour triompher des ennemis acharnés. Quelques exemples. Vous avez la reine Esther qui a jeûné face à la menace de l'extermination de son peuple. Il y a Daniel aussi qui a jeûné et prié pour la nation d'Israël. Vous avez Jésus qui est allé dans le désert, poussé par le Saint-Esprit, et qui a jeûné pendant 40 jours avant sa confrontation avec Satan. Et l'apôtre Paul, qui avait un grand fardeau pour la santé spirituelle de son peuple et des églises, combien cet homme y avait le cœur, à quand l'œuvre de Dieu, il va dire ceci, il a persévéré dans son ministère, dans les séditions, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes. Quelqu'un a bien dit ceci, quand nous pratiquons le jeûne, nous proclamons ouvertement à Dieu et aux puissances des ténèbres que nous ne comptons pas sur nos ressources personnelles, notre argent, notre savoir-faire, nos compétences, notre intelligence, mais sur l'intervention de Dieu. Et dans ce contexte, la prière de Néhémie n'est pas une prière routinière. Il n'y a pas dit « Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis ton peuple. Merci pour la bonne nourriture. Amen. » Ça, c'est la prière que nous allons voir tantôt, fervente, comme quelqu'un a cité tantôt, du juste qui a une grande efficacité. Ça, c'est la prière d'un homme là, qui voit la situation désolante, désespérée. Et comme Jacob a fait, il s'est allé, je ne sais pas où il est allé, là, mais en tout cas, il est devant le Seigneur Et de façon figurée, là, il va se saisir de Dieu comme Jacob a fait quand il a lutté avec l'ange. Il dit, je ne te laisse point aller avant que tu changes la situation. Tellement il sait que c'est seulement une intervention de la part de Dieu qui peut changer la situation. Alors, Néhémie jeûne, prie, se soucie assez de l'œuvre de Dieu pour s'informer. Il se soucie assez de l'œuvre de Dieu pour pleurer, mais aussi il se soucie assez de l'œuvre de Dieu pour prier. Néhémie qui voit le besoin, Néhémie qui ressent le besoin, mais Néhémie maintenant qui partage le besoin. Parce que le fardeau ici, c'est beaucoup trop grand. Et dans sa prière, il nous donne des belles exemples de justement qu'est-ce qu'on fait devant une situation qui est désolante ou désespérée. Je vous cite des beaux textes dans Psaume 3, 4 de Samis, dit ceci. De ma voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Néhémie fait ça. Il sait qu'il n'y a pas d'autre solution que Dieu. Puis il crie. Psaume 5, 3b dit, c'est à toi, Dieu, que j'adresse ma prière. Éternel, le matin, tu entends ma voix. Psaume 61, 3, 4, du bout de la terre, je crie à toi, car tu es pour moi un refuge. Et c'est ce qu'il fait. Partage ce fardeau avec la seule personne qui est capable de faire quelque chose, c'est Dieu. Je vais vous ouvrir une parenthèse ici rapidement. David de Derry a dit ceci, une vision requiert rarement une action immédiate, mais elle requiert toujours de la patience. Qui veut dire, ce n'est pas parce qu'on voit le besoin, qu'on ressent le besoin, qu'il est nécessaire de passer tout de suite aux actes, à l'action. Généralement, il y a un temps de préparation où Dieu prépare son serviteur. Dieu va faire une œuvre dans son serviteur avant de le faire à travers son serviteur. Je vous donne les exemples rapidement. Joseph avait une vision. Mais il a passé de longues années dans un cachot avant que cette vision se réalise. Il y avait aussi Moïse qui avait une vision. Il serait le libérateur du peuple d'Israël. Mais il a passé 40 ans dans le désert avant que cette vision se réalise. David avait une vision, il avait été loin, jeune homme, adolescent, sans doute, futur roi d'Israël. Il a passé des longues semaines, voire même des mois, dans les cavernes, en train de se cacher, justement, avant que cette vision se réalise. Et Néhémie aussi, il a une vision. Il y a quand l'œuvre de Dieu, il y a quand, justement, la réputation de Dieu, il y a quand cela. Mais il va passer 4 mois. Vont s'écouler avant que cela commence à se réaliser. Vous dites, mais comment vous savez qu'il y a 4 mois? Si vous êtes en train de lire le livre de Néhémie, chapitre 1 commence au mois de Kislev, qui est novembre-décembre. Si vous regardez au chapitre 2, vous allez voir maintenant Néhémie, et devant le roi, c'est le mois de Nisan, pas Nissan, là, Nisan, pas la voiture, c'est mars-avril. Et ça fait 4 mois qu'il est en train de persévérer dans la prière. Et quelqu'un a bien dit, on s'étonne que les murailles de Jérusalem ont été rebâties en 52 jours. Il dit, n'oublions pas que les fondations de ces murailles reposaient sur 4 mois de prière fervente. Qui nous amène maintenant à considérer la prière de Néhémie. Quelle belle prière. J'ai le temps rapidement de vous tracer juste les grandes lignes. Mais c'est tellement une belle prière, un homme qui connaissait son Dieu. Et il va dans la présence de Dieu et il va focaliser ce que qui Dieu est. Jérusalem en ruine, le peuple au comble du malheur et de l'opprobre, c'est une situation désespérée. Mais Néhémie focalise sur son Dieu qui avait justement la solution. Alors, la reconstruction de l'œuvre de Dieu est possible, oui, à Jérusalem, parce que Dieu est le Dieu des cieux. Il est en contrôle, il est souverain, il est assis sur le trône. Pour Néhémie, c'est assez. Chronique 26 va dire ceci, « Éternel, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? N'es-tu pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? n'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister. Ça, c'est... Il aurait pu arrêter là. Puis dire, écoute, Dieu, tu es en contrôle, tu es souverain. Ça va se faire. Mais il continue. Dieu est fidèle. Dieu qui garde son alliance, qui est miséricordieux. Et là, il va maintenant se baser sur le fait que Dieu aura pitié de son peuple. Dieu aura pitié, il miséricordieux, il garde son alliance dure et fidèle. Et il continue. Que ton oreille soit attentive, tes yeux ouverts. Dieu écoute la prière. Néhémie est convaincu, il dit que je suis ici. Je suis en train de déverser mon cœur devant Dieu, mais je sais qu'il m'écoute, qu'il m'entend. 1 Pierre 3, 12 dit ceci, les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont ouvertes à la prière. Et bien aimé, quand vous priez, soyez rassurés que Dieu n'est pas endormi, il n'est pas en vacances, il n'est pas, il vous voit, il vous entend, il vous écoute. Quelle rassurance pour ce serviteur de Dieu, que Dieu aussi voyait le besoin. Dieu voyait le besoin. Ensuite, il continue dans sa prière, « Dieu fait grâce aux hommes en confessant les péchés d'Israël, nos péchés contre toi. » Il sait que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Et Néhémie savait que la situation en Jérusalem, il y avait une source de cela. Il y avait le péché qui a fait en sorte que le peuple avait été amené en captivité et ainsi de suite. Et là, il va devant Dieu, il va confesser les péchés. Et remarquez bien ici, juste une petite chose, j'aimerais que vous remarquiez. Il a dit, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi. Et après, il va dire, moi et la maison de mon père, nous avons péché. Juste pour vous dire rapidement que le péché, vu qu'il y a une unité dans la nation d'Israël, et la même chose aussi dans l'Église, le péché de un, c'est le péché de tous. Et le péché de tous, c'est le péché de un. Et il n'est pas en train de dire, ils ont péché, ils ont fait ça. Et non, non, non. La nation d'Israël est un. Alors, le péché qui affecte la nation l'affecte aussi, et son péché à lui va affecter la nation. Et ça, c'est très important de se rappeler, surtout dans le contexte d'une église, et nous avons le même principe dans Corinthiens 12, 26. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Mais si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Alors, faites attention de la façon dont on regarde le péché, notre péché et le péché des autres. Et ça va nous aider justement de la manière dont on va se conduire, parce qu'on sait que notre péché va avoir un impact sur toute la collectivité, parce que nous sommes un seul corps. Et quand Achan a convoité justement un manteau de chignard et un lingot d'or et ainsi de suite, il a caché et Israël a connu de la défaite et Josué, il est bouleversé, il va devant Dieu, il dit « Pourquoi Seigneur tu nous as fait traverser, venir dans ce pays pour être battu ?» Et Dieu lui a dit « Israël a péché. » Pas Achan. Israël, pourquoi? Parce que vous êtes un. Vous êtes un. Et le péché de un affecte tout. Et le péché de tous affecte un. Cinquièmement, je continue. Dieu garde ses promesses. Souviens-toi. Il n'est pas en train de dire à Dieu, écoute, peut-être tu es vieux, tu es un vieux bonhomme, et tu as besoin justement qu'on te rappelle. Non, 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 non. Quand il dit à Dieu, souviens-toi, il est en train de se rassurer que Dieu n'oublierait jamais son peuple. Et il y a ici ce beau texte qui nous montre que Dieu a dit qu'à une femme, peut-être, peut-elle oublier l'enfant qu'elle allaitait. Peut-être, c'est rare. Mais ce n'est pas normal. Mais Dieu a dit, même si cela arriverait, moi, je ne t'oublierai jamais. Fait qu'il dit à Dieu, écoute, oublie pas ce que tu avais dit, justement, tes promesses. Sixièmement, Dieu n'abandonnerait jamais son peuple. Ils sont tes serviteurs et ton peuple. Et finalement, septièmement, ici, Dieu est tout puissant. il dit ceci. Ils sont ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Il va se rappeler quand il était en Égypte. Il gémissait sous l'esclavage d'un pharaon cruel. Et Dieu, tu as démontré ta puissance. Et voilà une situation qui est désespérée. Mais tu es le même Dieu. Et tu as la même puissance justement pour changer cette situation. Job va dire ceci, Job 42, 2. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'oppose à tes pensées. Et finalement, ça c'est la prière de Néhémie, chers amis, une prière de repentance, mais aussi une prière pleine de confiance, parce qu'il sait que Dieu va agir en faveur de son peuple. Et finalement, la résolution courageuse, il va terminer sa prière en disant ceci, « Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. » Et ces paroles-là nous démontrent que Néhémie est prêt à échanger une vie d'aisance et de prestige au palais pour une vie où est-ce qu'il sait qu'il va avoir des difficultés à surmonter et des efforts à fournir. Il s'en va, il va avoir du succès. Alors il a prié, mais là il demande à Dieu maintenant de lui donner du succès. Est-ce qu'il se décourage par l'ampleur de la tâche? Non. Parce qu'il va s'appuyer sur la grâce de Dieu et sur la providence de Dieu pour lui donner du succès. Et pour partir, ça prenait l'autorisation du roi de Perse. Et Néhémie, justement, va demander cela. Parce que le texte nous dit dans Proverbe 21, « Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. » Alors, il sait. Écoute, même le grand roi de Perse, il n'est qu'un pion dans la main de Dieu. Et il demande justement à Dieu qu'il puisse avoir le succès devant cet homme. Alors, je termine avec ceci. Néhémie, l'homme qui se soucie assez pour s'informer. L'homme qui se soucie assez pour pleurer. L'homme qui se soucie assez pour prier. Mais un homme aussi qui se soucie assez pour s'impliquer. Un homme qui a vu le besoin, qui a ressenti le besoin, qui partage le besoin. Et maintenant, ici, à la fin de ce chapitre, il s'engage à combler le besoin. C'est comme si Néhémie est allé devant Dieu. Il a dit, je vois la situation. Je sais qu'il y a des choses à faire. L'œuvre de Dieu, le peuple de Dieu, il dit, me voici, envoie-moi. Je vois le besoin. Je ressens le besoin. Je t'ai partagé le besoin. Mais je veux aussi m'impliquer pour combler le besoin. Et vous savez, l'œuvre de Dieu et le peuple de Dieu à l'Assemblée de Cap-la-Madeleine ont besoin d'être rebâtis. Après ce que nous avons vécu, le leadership a besoin d'être rebâti. Les brebis ont besoin d'être reconstruites. Notre témoignage, vu les autres, face aux autres assemblées, ont besoin d'être rebâtis. Le lien de confiance entre les membres, entre aussi les membres et le leadership, ont besoin d'être rebâtis. Les ministères ont besoin d'être rebâtis. Nous avons même besoin d'un bâtiment. C'est physique, mais aussi c'est là. Et Dieu cherche des Néhémie. Et la question qu'il vous pose, qu'il me pose ce matin, est-ce qu'il peut compter sur nous pour reconstruire son œuvre? Et reconstruire aussi le peuple de Dieu. Et juste un mot pour ceux qui peut-être sont ici ce matin, vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, mais vous avez un besoin aussi. Et Dieu voit ce besoin. Et ce matin, laissez-moi vous dire qu'il est capable de combler ce besoin. Parce que Jésus-Christ est mort sur la croix il y a presque 2000 ans pour combler votre plus grand besoin, le besoin du salut. Et par une prière de repentance, comme Néhémie, il a confessé justement qu'il était pécheur, ses péchés devant Dieu. Et en recevant le pardon du Seigneur Jésus-Christ, vous pouvez connaître une œuvre de reconstruction dans votre propre vie. Et après, Dieu peut se servir de vous pour justement reconstruire son œuvre. Alors, on va prier. Vous donnerez aussi avant un peu de devoir, lisez le chapitre 2 pour la semaine prochaine. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, tel grand Dieu que tu es, et nous te remercions que tu es à l'œuvre. Nous te prions de prendre ces paroles, Seigneur, ces faibles paroles que j'ai prononcées, mais ta parole est puissante et que tu puisses toucher les cœurs, mon cœur, nos cœurs tous, afin que nous puissions être de ceux qui s'impliquent, qui se soucient, Seigneur, de ton œuvre et de l'état dans lequel elle se trouve parmi nous aujourd'hui. Et que tu puisses susciter parmi nous des Néhémies qui seront prêts à dire « Me voici, envoie-moi ». Alors relève-nous, Seigneur, rebâtis ton œuvre au Cap de la Madeleine, pour ton honneur et pour ta gloire. Amen.